Le Seigneur nous a parlé et nous voulons recueillir l'enseignement de ses paroles. Nous lirons un premier passage dans le livre du prophète Joël, dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, le chapitre 3 du livre du prophète Joël. Joël a rempli son ministère plus de 8 siècles, semble-t-il, probablement, avant Jésus-Christ. Il a dû annoncer ce qu'on trouve dans les premiers chapitres de son livre, une calamité qui venait corriger le peuple de Dieu infidèle, une calamité de sécheresse et de plaie de sauterelles. Mais il annonce, puisqu'un mouvement de repentance s'est manifesté en Israël, il annonce les temps de bénédiction que Dieu prépare, et même à long terme, pour l'époque messianique. Et au chapitre 3, nous lisons la prophétie de Joël. Après cela, c'est Dieu qui parle par Joël, après cela, je répandrai mon souffle ou mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles deviendront prophètes, vos anciens auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon souffle. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que n'arrive le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur échappera. Car au mont Sion, à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit le Seigneur, et ceux que le Seigneur appelle seront parmi les survivants, ou autrement traduit, parmi les survivants que le Seigneur appelle. Puis nous lisons un second passage où se trouvera plus spécialement la parole que nous méditerons dans le Nouveau Testament, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Galates. Épître de l'apôtre Paul aux Galates, au chapitre 3, l'apôtre explique le grand schéma du plan de Dieu et il souligne que le don de la loi par Moïse, avec toutes ses règles assez contraignantes, n'a pas annulé la promesse faite à Abraham précédemment. C'est un régime provisoire que Dieu a instauré, celui de la loi mosaïque, et il dit au verset 23, « Avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la loi, enfermés, en vue de la foi qui allait être révélée. Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'au Christ, pour que nous soyons justifiés en vertu de la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus soumis à un surveillant. Car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Jusqu'ici, notre lecture. Le 4 août, c'est une date dans l'histoire de France. Le 4 août 1789, l'Assemblée nationale constituante, c'est le nom qu'avaient pris les États généraux le 9 juillet précédent, l'Assemblée nationale constituante décrétait l'abolition des privilèges. La loi devenait la même pour tous. Car le mot « privilège » veut dire, d'après son étymologie, d'après son sens premier, une loi privée. Le mot lège dans privilège, c'est la même racine que vous avez dans légitime, conforme à la loi, les législatifs qui concernent les lois. Le privilège, c'est une loi faite pour un particulier, pour un cas en quelque sorte privé. À Rome, où le terme a été forgé en premier lieu, à Rome, c'était d'abord, semble-t-il, une loi plutôt défavorable, qui était prise pour sanctionner la conduite de tel ou tel. Mais très vite, le sens est devenu plutôt favorable, et le mot « privilège » donc a désigné une disposition législative prise en faveur de quelqu'un en particulier, sans portée universelle. Et la noblesse, dans l'Ancien Régime, bénéficiait de lois qui ne s'appliquaient pas à tous, qui n'étaient pas des lois pour un seul individu, bien sûr, mais pour une catégorie particulière. La noblesse disposait d'un statut juridique autre que celui du reste de la population. C'était aussi le cas du clergé. Il s'agissait de privilèges. Et ils étaient avantageux. C'est pour ça que le mot privilège a pris, dans notre parler courant, le sens d'un avantage. On dit un privilège pour dire un avantage, mais d'abord, c'est un statut légal. Le 4 août 1789, la Constituante a décrété la fin de ce privilège, de ce statut légal spécial. Le droit devenait le même, droits et devoirs identiques pour tous. Abolition des privilèges. Bien avant la Constituante de 1789, l'apôtre Paul aussi a proclamé l'abolition des privilèges. Le texte que nous venons de lire dans l'Épître aux Galates est une proclamation solennelle de la fin des régimes spéciaux du point de vue du droit, des droits et des devoirs. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, proclame l'apôtre. On a pu citer ce verset en disant que c'est la charte de la liberté chrétienne. C'est l'abolition des privilèges qui avaient été en vigueur jusqu'à ce moment-là. Alors, quels étaient ces privilèges? Quels sont les privilèges qui sont abolis? Lorsque le Christ paraît, accomplit son œuvre, et selon la proclamation que l'apôtre en fait, nous verrons donc ce qu'il en était avant. Nous chercherons aussi la source et le sens du grand changement qui intervient et nous verrons quelques conséquences concrètes qui vaillent pour nous encore. Alors, les privilèges abolis. Il n'y a plus ni juifs ni grecs, c'est-à-dire non-juifs. Les Grecs ne sont pas cités comme une nation qui serait privilégiée parmi toutes les nations, mais parce qu'ils représentent tous les non-juifs. C'était surtout des Grecs qu'il y avait dans les églises de Galatie, et donc l'apôtre Paul dit les Grecs pour dire tous ceux qui ne sont pas de cet ancien régime juif. Le grand changement que la venue du Messie a provoqué pour ceux qui l'attendaient, c'est cette abolition du privilège des Juifs jusqu'à ce moment-là. Ça a été très difficile à digérer pour les Juifs du 1er siècle. Nous voyons que même ceux qui étaient devenus les disciples de Jésus ont eu beaucoup de mal à admettre que les païens pouvaient être accueillis avec les mêmes droits et devoirs qu'ils l'étaient eux-mêmes dans le peuple de Dieu, pour participer au règne de Dieu. Il a fallu, pour l'apôtre Pierre lui-même, que Dieu y aille de la leçon de chose, que Dieu lui donne une vision avec des animaux de toutes sortes, dont certains étaient impurs selon la loi de l'Ancien Testament, en lui disant « Tue et mange !» Et Pierre vraiment ne voulait pas. « Mais non, Seigneur, depuis mon enfance, il avait imbibé tous ces commandements, toutes ces interdictions, pas possible que je mange de ces animaux impurs. » Et Dieu a dû lui dire plusieurs fois, ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas souillé. Et il a compris. un enchaînement de choses qui était conduit par la providence du Seigneur. Il s'est retrouvé dans la maison d'un non-juif, le centurion Corneille, et il s'est rendu compte du sens de ce que le Seigneur lui avait appris. Plus de différence, ni juif, ni grec, romain, comme était ce centurion. Mais même après, il a encore eu du mal. Et puis, il a dû s'expliquer, les frères à Jérusalem n'étaient pas contents du tout. Et il a fallu réunir toute une conférence, un synode, un concile, une convention, comme vous voudrez l'appeler, à Jérusalem, pour discuter de cette question. C'est ce que nous rapporte le chapitre 15 du livre des Actes. Que signifie cette fin de la distinction juif-grec, ce passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance? Elle signifie bien sûr que maintenant les différences ethniques ne comptent plus devant Dieu. Que ce n'est plus une question de sang, de race, de généalogie qui peut mettre la moindre barrière dans l'accès à la communion de Dieu. Mais ce n'est pas seulement une question de différence de nationalité ou d'origine. Le régime spécial, le privilège d'Israël dans l'Ancien Testament, c'était une disposition qui venait de Dieu. Ce n'était pas un simple fait de nature. C'est Dieu qui en avait décidé ainsi. Et ce que proclame l'apôtre, c'est la fin de ce régime transitoire et préparatoire. Il enseigne clairement qu'il avait été conçu pour ouvrir le chemin à ce que le Christ allait apporter, le Messie d'Israël, qui est aussi le Sauveur du monde, qui est le Dieu de toutes les nations. C'était la fin de ce régime spécial par offrande à tous de la même grâce, accessible à la seule foi. Il y avait un mur de séparation entre les juifs et les non-juifs. Un mur de séparation qui était d'ailleurs symbolisé par un vrai mur, hein, dans l'enceinte du temple à Jérusalem. On a retrouvé la plaque sur laquelle était écrit que tout non-juif qui dépasserait cette barrière serait mise à mort. Au premier siècle, au temps de Jésus, c'était la peine de mort qui attendait tout non-juif qui voulait usurper le privilège des seuls juifs d'aller au-delà de cette barrière pour s'approcher du lieu saint et du lieu très saint. Ce mur de séparation, nous dit l'apôtre, a été renversé. Il n'y a plus ni juif ni grec. Voilà la nouveauté que célèbre notre verset. C'est au chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens que l'apôtre parle de ce mur de séparation, maintenant complètement démoli, renversé, de telle sorte qu'il y a un libre accès pour les juifs et les grecs, les non-juifs, les français, ensemble. Il n'y a plus ni esclaves ni libres. Ça, c'est une différence de statut juridique et social. Cette différence-là non plus ne compte pas devant Dieu pour l'héritage des promesses de la grâce de Dieu. Alors, est-ce que c'était une nouveauté? Ce n'est pas une nouveauté aussi nette que celle qui mettait fin à ce privilège d'Israël par opposition aux nations. Car l'esclavage dans l'Ancien Testament, l'esclavage comme encadré par la loi de Moïse, ne niait pas la dignité humaine des personnes qui n'étaient esclaves que pour une durée limitée et avec des règles assez contraignantes. Vous savez que d'après la loi de Moïse, si un maître cassait une dent à son esclave, il devait le mettre en liberté immédiatement. Ce n'était pas du tout le droit absolu, incontrôlé du maître sur l'esclave pour l'Ancien Testament. Mais de fait, dans le monde gréco-romain, dans le monde donc non-juif, païen, les choses étaient bien pires pour les esclaves. Certains étaient assez bien traités, disons, pouvaient avoir même des responsabilités. On les traitait parce que c'était un capital, relativement bien, comme on traite ses besoins, relativement bien, quand on en a. Mais il est sûr que du point de vue de la liberté de conscience, de leur accès au culte et à la recherche spirituelle, la plupart des maîtres devaient considérer que ce n'était pas pour les esclaves, que les esclaves n'étaient rien de plus que des animaux. Aristote, le grand philosophe, venu plusieurs siècles avant le Nouveau Testament, mais Aristote écrit dans son principal volume d'éthique, l'éthique dite de ou à Nicomaque, c'est le nom de son fils et le nom de son père d'ailleurs, Nicomaque. Au livre 8, rien n'est commun entre le maître et l'esclave. Ce dernier n'est qu'un instrument vivant. On peut traduire aussi un outil animé. Et l'instrument ou l'outil n'est qu'un esclave inanimé. Négation absolue de la dignité humaine de l'esclave chez ce grand philosophe qu'on étudie encore aujourd'hui, dont le renom a traversé les siècles. Par rapport à cette vision de l'esclavage, de la séparation entre esclave et homme libre, vous percevez la portée révolutionnaire de l'affirmation de l'apôtre, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, vous êtes tous un dans le Christ Jésus. Et puis, il n'y a plus ni homme, ni femme, ou si on traduit de manière plus littérale, il n'y a plus ni mâle et femelle, si vous préférez masculin et féminin. C'est la formule que l'on trouve dans la Genèse au chapitre 1er et au verset 27. Dieu créa l'homme, l'être humain, en son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Genèse chapitre 1er, verset 27. Il n'y a plus, dit l'apôtre, mâle et femelle, homme et femme si vous préférez. Est-ce que cela voudrait dire que dans la création de Dieu, il y avait une inégalité malheureuse que le Christ viendrait abroger et nous nous réjouirions de cette abrogation? Je crois que le texte n'en dit pas autant. Le texte ne critique pas ce qui s'est fait dans la première création de Dieu. Dans la première création de Dieu, la différence mâle et femelle est comprise dans l'harmonie dont Dieu dit, il vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était parfaitement bon, très bon, extrêmement bon, au verset 31 du même chapitre. Seulement sur la différence bonne, très bonne, que Dieu a créée, s'est greffé l'effet de la rébellion et trahison folle et ingrate de l'humanité à l'égard de Dieu, celle qui nous est racontée au chapitre 3 du livre de la Genèse. Et là, les conséquences que Dieu lui-même a déclarées à ce moment-là de cette folie méchante des êtres humains que nous sommes tous. Les conséquences sont mises en valeur au verset 16. Il est question de la maternité pénible pour la femme. C'est dans la souffrance que tu enfanteras des enfants. Il s'agit du rapport des sexes conflictuel. Un élan, ton élan te portera vers ton mari, mais il en profitera, mais lui dominera sur toi. Rapport entre les sexes toujours difficile. Comme on a dit, l'homme et la femme ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, mais pas non plus l'un avec l'autre. Voilà le problème que rencontrent les hommes et les femmes, la plupart d'entre eux en tout cas, depuis Éden, depuis que cette catastrophe s'est produite. Et cette distorsion qui a affecté la différence homme-femme a des effets cultuels quant au rapport avec Dieu d'après la loi de l'Ancien Testament. Il y a par exemple l'impureté de la femme accouchée, une impureté spécialement attachée à la femme. Il y a sa dépendance à l'égard de son mari lorsqu'elle fait un vœu au Seigneur, comme le chapitre 30 du livre des Nombres nous le montre, et dans le judaïsme qui voulait se situer, en tout cas dans le prolongement de l'Ancien Testament, il est assez certain que les rabbins ont plutôt penché du côté d'une certaine misogynie. Oh, il ne faut pas caricaturer, on le caricature parfois, mais si le juif vieux remerciait chaque jour le Seigneur de ne pas l'avoir créé femme, la femme remerciait le Seigneur de l'avoir créé femme, quand même. Mais on ne peut pas nier un élément de misogynie. Et l'apôtre proclame, il n'y a plus ni homme ni femme. Alors quel est le sens, quelle est la source de cette abolition des privilèges? La révolution dont Paul est le héros ne procède pas de l'idéologie égalitaire qui était celle de l'Assemblée nationale constituante en 1789. Les constituants étaient imprégnés par les idées de Voltaire, de Diderot, de Rousseau. C'est leur rationalisme qui les poussait à affirmer l'égalité de tous, la fin des privilèges. Car la raison travaille dans l'universel, elle égalise, elle nivelle. La raison n'aime pas ce qui est particulier, elle essaye toujours de le dissoudre. Et le rationalisme du XVIIIe siècle était donc égalitaire. Les révolutionnaires, quelque temps après, c'était pas en 1789, mais un peu après, ont carrément déifié la raison. Ils ont fait des processions à la déesse raison. Ils ont organisé un culte où la raison était la référence suprême. L'égalitarisme des révolutionnaires de 1789 est un égalitarisme rationaliste, et ce n'est pas le cas des perspectives bibliques. La notion d'égalité n'est pas très apparente dans l'écriture. Alors on peut la voir entre les lignes, ici ou là, je ne voudrais pas le nier. Et il y a des critiques d'inégalité trop outrancières, mais le mot d'égalité n'apparaît comme une valeur que dans un seul chapitre, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 8, et là c'est dans un contexte tout à fait particulier. Il s'agit d'exhorter les chrétiens de Corinthe à donner pour les pauvres de Jérusalem, pour les chrétiens qui sont très démunis à Jérusalem, et c'est là que Paul parle d'égalité, en disant « c'est pas pour vous dépouiller », mais dans l'épître aux Romains, pour cette même collecte, il évoque une sorte de réciprocité. Les chrétiens juifs de Jérusalem ont fait part de leur richesse spirituelle, puisqu'il n'y a plus ni juifs ni grecs, et bien que les chrétiens de Grèce, qui sont davantage fortunés, fassent part de leur richesse matérielle. Ce n'est pas une idée d'égalité très très idéologique que celle que nous avons là. Je relève d'ailleurs que lorsque on édifie l'idée d'égalité en valeur cardinale, comme l'a fait notre culture, depuis la Révolution française, depuis le temps des Lumières rationalistes, on a beaucoup de peine à définir l'égalité. Ce n'est pas une notion qui aille de soi si facilement. La critique des marxistes à l'égard des révolutionnaires de 1789, c'est que c'est une égalité finalement purement formelle, une égalité de droit, mais que personne ne peut exercer, qui laisse la différence entre les riches et les pauvres. Mais si on dit non pas cette égalité-là, mais une égalité de conditions, à quoi ça correspond? À chacun selon ses mérites, selon le travail qu'il fournit, à chacun selon ses besoins. Comment définir les besoins? Est-ce que c'est les envies? Vous voyez à quel point, si on élève la notion d'égalité au premier rang, on a du mal à définir exactement. L'égalité de droit et de devoir que l'apôtre affirme en disant « il n'y a plus ni juif ni grec, etc. », c'est une égalité dans l'union à Jésus-Christ. Le verset qui suit est parfaitement clair. C'est en Jésus-Christ que nous sommes un. C'est l'union en Jésus-Christ qui fait de nous la vraie postérité d'Abraham, et les héritiers de la promesse qui avait été faite à Abraham. C'est une identité de, c'est une égalité de l'identité nouvelle qui nous est attribuée par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, qui avez été baptisés par référence au nom de Jésus-Christ, vous avez revêtu le Christ. La foi s'exprime dans le baptême et elle reçoit Jésus-Christ comme une identité nouvelle. C'est en lui que Dieu nous voit. Nous sommes en quelque sorte revêtus, de même que l'uniforme définit l'identité de quelqu'un qui porte l'uniforme. Ayant revêtu le Christ, nous sommes dotés de l'identité même du Christ aux yeux de Dieu. Fils et fille de Dieu, en lui le Fils, notre Seigneur. Et pourquoi est-ce lui qui est la source de cette identité et donc de cette égalité de droits et de devoirs, cette union qui fait que toutes les vieilles barrières sont abolies? Fondamentalement, parce que la grâce qui nous est faite en lui est pure grâce. Si nous avions le temps, je vous montrerai que dans la première partie du chapitre 3 de l'Épître aux Galates, c'est extrêmement net. Sous le régime de la loi, où il faut apporter des œuvres pour être déclaré juste par Dieu, alors là, les différences entre humains, elles comptent. Mais aucun humain ne peut être justifié devant Dieu. Nous sommes tous bien en dessous de la barre. Il n'y a que la condamnation. Personne ne peut payer à la justice de Dieu tout ce qu'il lui doit. Alors Jésus est intervenu. Jésus a pris sur lui toute la dette. C'est lui qui a payé entièrement notre rançon. Il a tout fait pour nous, de telle sorte que le salut est une grâce pure, un cadeau à 100%. Rien à payer, juste le recevoir. C'est cette pureté de la grâce de Dieu. Rien ne vient de nous, nous pouvons rien. Nous vanter de rien de particulier, hein, qui fait que les différences qu'il y a entre les humains ne comptent plus. Tant qu'il semblait compter ce que les hommes apportaient, alors bon, ça pouvait compter, ça pouvait donc les diviser. Et puisque Christ a tout payé, nous sommes tous exactement dans le même état, le même statut. Nous sommes tous, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, plus ni homme ni femme. Nous avons tous également accès à Dieu. Nous sommes héritiers de la promesse faite à Abraham, qui était d'abord la promesse de la justification. La promesse à Abraham, c'est Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice, justifié devant Dieu, agréé par lui. Fini, aucune condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, parce qu'il a tout pris en charge. Et quand nous sommes unis à lui, nous recevons cette identité de fils et filles de Dieu accueillis par leur Père Céleste. Vous voyez la logique de l'Évangile. La source de cette abolition de tout privilège, de toute loi particulière, c'est que le Christ a tout fait pour nous. C'est lui qui compte. Alors, les conséquences concrètes. Nous avons, je pense, là, bien compris le sens de l'apôtre. Mais, après, qu'est-ce que ça donne? Le texte que nous avons lu ne le spécifie pas, il faut le reconnaître. Nous avons besoin du reste de la Bible pour répondre à cette question des conséquences concrètes. Juifs et grecs, d'abord. Le Nouveau Testament nous montre bien, j'ai évoqué tout à l'heure les chapitres du livre des Actes, nous montre bien quelles conséquences a été tirées. Il n'est plus nécessaire de se faire juif pour appartenir au royaume de Dieu. Jusque-là, il était possible pour des non-juifs de se rattacher au vrai Dieu, mais il fallait devenir juif. C'était les prosélytes et qui, lorsqu'ils étaient de sexe masculin, devaient être circoncis, etc. C'est cela qui est fini. l'ancienne alliance, l'ancien régime dont Moïse a donné la formule principale, est caduque. Cela est dit très clairement dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8 et au verset 13. L'auteur aux Hébreux, après avoir cité la prophétie de la nouvelle alliance chez Jérémie, dit « Voilà, cette prophétie montre que l'ancienne alliance avait pris un coup de vieux et qu'elle était prête de disparaître. » Cette disparition est intervenue quelques siècles après Jérémie, et le sens dans l'Épître aux Hébreux est très clair, c'est ce qui est maintenant le cas au premier siècle, le siècle de la venue de Jésus-Christ. La vraie postérité d'Abraham, c'est tous les croyants, qu'ils soient issus d'Israël ou qu'ils soient des Grecs, des Romains, des Français, c'est là, la vraie postérité d'Abraham. Le vrai juif, dit l'apôtre Paul au chapitre 2 de l'Épître aux Romains, ce n'est pas celui qui est circoncis dans sa chair, mais celui qui est circoncis de cœur, c'est-à-dire dont le cœur a été purifié, qu'il soit d'origine juive ou non. Il dit encore aux Philippiens au chapitre 3, méfiez-vous du judaïsme des circoncis, qui ne sont que dans la chair. La vraie circoncision, c'est nous, les chrétiens, de toutes origines, nous qui servons ou adorons le Seigneur dans l'esprit et qui mettons notre confiance dans le Christ Jésus. Voilà ce qui correspond à la vraie circoncision, dont la circoncision de l'Ancien Testament n'était qu'une figure anticipatrice. Et l'apôtre Paul me semble montrer assez clairement que même un juif de naissance n'est plus obligé de respecter la loi de Moïse pour plaire à Dieu, circoncision, nourriture cachère, etc. L'apôtre Paul lui-même dit qu'il s'est fait tous à tous et qu'il a été avec les sans-loi comme sans-loi, avec les païens vivant comme païens. Il n'y a plus d'obligation même pour un juif de naissance, comme l'était l'apôtre Paul lui-même. Cependant, ce n'est pas tout ce que nous enseigne l'Écriture. Subsiste sur ces juifs de naissance, ces descendants, selon la chair d'Israël, une marque. L'ancienne alliance comme telle est caduque, mais il subsiste une marque. Ils sont les descendants du peuple que Dieu a choisi antérieurement, et cela, pour l'honneur de Dieu, signifie quand même encore une différence. Ça ne les sauve pas. Il faut qu'ils mettent leur foi en Jésus pour être sauvés, c'est très clair dans tout le Nouveau Testament. Mais cela veut dire quand même trois choses. Cela veut dire d'abord qu'ils sont la cible de l'antisémitisme. Je suis persuadé que le secret, le ressort le plus profond de l'antisémitisme qui a sévi tout au long des âges, c'est la haine diabolique pour ceux qui rappellent le choix de Dieu, qui par leur existence de juifs, de descendants d'Israël, le peuple élu, rappellent qu'il y a un Dieu, et un Dieu qui choisit souverainement comme il veut. Cela, le diable en est furieux, et tous ceux qui sont les enfants du diable participent de cette haine. Deuxième conséquence, c'est que Dieu a fait en sorte que subsiste une identité juive à travers les siècles. C'est tout à fait bizarre, c'est tout à fait extraordinaire dans l'histoire. Comment cette nation dispersée dans le monde entier, qui n'avait plus de territoire, ne s'est pas simplement dissoute, comme tant d'autres nations dans l'histoire. Mais après 2000 ans, il y a toujours une identité juive. C'est dans ce sens qu'il y a un témoignage très fort au Dieu de la Bible. Il paraît que le roi Frédéric de Prusse demandait à son médecin, le docteur Zimmermann, quelle était la plus grande preuve, à ses yeux, de l'existence de Dieu. Et ce docteur Zimmermann a répondu, « Sire, les Juifs. » C'est un phénomène historique extraordinaire. Et si je comprends bien l'Épître aux Romains, chapitre 11, il y a un troisième élément, c'est que Dieu prépare une conversion massive de tous ceux qui sont, selon la chair, descendants d'Israël, pour qu'ils reconnaissent que Jésus est le vrai Messie, qu'il aura été envoyé et qu'ils soient sauvés par lui. C'est le dernier épisode qui semble devoir précéder la venue glorieuse de notre Seigneur. Et je pense que le mouvement des Juifs messianiques, ou comme on dit maintenant plutôt, des croyants juifs en Yeshua, Yeshua c'est le nom juif de Jésus, nom hébreu de Jésus, les croyants juifs en Yeshua, que ce mouvement-là, qui est un mouvement qui atteint des milliers de croyants aujourd'hui, est un signe de cette volonté de Dieu d'accorder sa grâce aussi à ceux qui ont cette marque dont j'ai parlé. Mais pour accéder à la plénitude de la bénédiction, à la promesse d'Abraham, il n'y a plus ni juif ni grec, c'est la foi en Christ qui a tout payé pour nous. Ni esclave ni libre. La révolution de l'Épître aux Galates n'a pas été interprétée comme un appel à la subversion politique dans l'Église du Nouveau Testament. L'apôtre Paul n'a pas dit « Alors donc, maintenant, il nous faut casser ce régime politique qui était établi et, en particulier dans l'Église, rejeter tout propriétaire d'esclaves, par exemple, qui se convertirait et qui ne libérerait pas ses esclaves. » Ce n'est pas la conséquence qui a été tirée. Le régime de l'esclavage fait partie de notre homme extérieur. C'est la dimension extérieure de la vie. Or, l'apôtre Paul nous avertit, nous attendons encore la rédemption de notre corps. Le fruit de l'œuvre de Jésus-Christ nous est appliqué au cœur. L'homme intérieur reçoit une vie nouvelle et se renouvelle de jour en jour, mais l'homme extérieur, donc y compris des composantes sociales de notre personne, cela n'est pas encore changé, c'est au retour du Seigneur que cela le sera. Et donc, pas d'action politique obligatoire pour abolir immédiatement l'esclavage. Mais en même temps, là aussi il faut bien voir comment concrètement les choses se sont passées, un changement d'attitude et de comportement effectif, très radical dans l'Église. Il n'était pas imposé aux maîtres de relâcher leurs esclaves, mais il leur était dit, maintenant, ce sont vos frères, et recevez-les et traitez-les comme des frères. Ce qui était une bombe à retardement et qui a permis la fin de l'esclavage quand les conditions extérieures l'ont permis. La lettre à Philémon, qui était maître d'esclaves, est tout à fait exemplaire à cet égard. L'apôtre Paul lui dit, normalement Philémon aurait pu soumettre Onésime, esclave fugitif, aux pires tortures. C'était normal, un esclave fugitif. Et l'apôtre Paul lui renvoie cet Onésime qui s'est converti par son moyen, alors qu'il est prisonnier, lui, à Rome. L'apôtre Paul lui renvoie Onésime et lui dit « Accueille-le comme moi, comme tu m'accueillerais moi. Tu as vu filer un esclave et tu retrouves un frère. » Quel bouleversement radical des relations dans l'Église. Et il semble bien, parce qu'il y a un texte du début du IIe siècle, qui nomme l'évêque, le pasteur si vous préférez, de l'église d'Éphèse, et ce pasteur de l'église d'Éphèse s'appelle Onésime. Il est assez probable, c'est pas sûr, hein, mais assez probable, que c'est l'ancien esclave de Philémon, qui est maintenant le pasteur de cette église. Voilà comment les choses se sont passées, et je pense que c'est un modèle pour d'autres structures d'inégalité méchante, malheureuse, dans la société. Non pas la voie de la subversion politique, mais une voie efficace. Et puis, hommes et femmes. Alors ça, c'est le sujet le plus délicat. D'autant plus qu'il divise quelque peu même les chrétiens évangéliques. Alors, il faut noter d'abord que la différence homme-femme, masculin-féminin, n'est pas de même catégorie que les deux précédentes. Il y a la petite différence grammaticale que l'on trouve dans le texte de l'apôtre. Il dit ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni mâles et femelles. Grammaticalement, il y a une rupture là, comme pour nous signaler que ce n'est pas tout à fait la même chose. Preuve plus forte encore que ce n'est pas la même chose, il y a d'autres passages où l'apôtre Paul dit à peu près la même révolution, l'abolition des privilèges, il n'y a plus ni juif ni grec, dans la première aux Corinthiens au chapitre 12 et au verset 13, et dans l'épître aux Colossiens au chapitre 3 et au verset 11. Mais dans ces deux passages parallèles, qu'il a écrit sans doute après l'épître aux Galates, il n'y a plus ni homme ni femme. Il a sans doute perçu que cette expression était mal comprise, et du coup, vous voyez, il fait la différence. Il ne répète pas la clause ni homme ni femme dans l'épître aux Corinthiens, premier épître, et dans l'épître aux Colossiens. La différence entre les ethnies, la différence entre les statuts sociaux, ce n'est pas de la création même. Alors que la différence homme-femme, elle appartient à l'ordre premier qui définit la vie humaine selon Dieu. Dans la nouvelle création, elle sera transfigurée, mais avec pas mal d'autres théologiens, je pense qu'elle ne sera pas abolie dans la nouvelle création même. Alors qu'implique le ni homme ni femme ou ni mâle et femelle de l'apôtre Paul? Je crois que la formule implique l'invitation à lutter contre l'oppression sexiste. Oui, que nous pouvons avoir une sorte d'accord de co-belligérance avec les féministes d'aujourd'hui en ce qui concerne les inégalités injustes qui ont signifié au cours des âges un privilège négatif, un désavantage vraiment inique qui a fait souffrir les femmes. Cela, je pense, nous pouvons le dire, et lutter contre le harcèlement, lutter contre les obstacles à la pleine réalisation de leurs talents, des femmes, sur la base de cette volonté de Dieu de ne plus faire de différence. Il n'y a plus ni homme ni femme dans ce sens. Alors nous avons cette convergence, si vous voulez, avec les féministes sur ce point, mais attention, ce n'est pas au prix de l'assassinat de milliers de petits enfants d'hommes dans le sein de leur mère. Cela doit être très clair, bien sûr, entre nous. Mais si cette direction fondamentale, lutter contre les oppressions qui sont un effet du péché dans la vie de l'humanité, qu'en est-il des ministères dans l'Église? C'est là tout spécialement ce qui se discute. Contrairement à certains, je crois que Dieu veut maintenir des différences quant aux rôles principaux assignés aux hommes et aux femmes dans son peuple. Il y a de très nombreux ministères qui sont ouverts sans aucun problème biblique aux femmes comme aux hommes également. Il n'y a lieu de faire aucune différence, et je souligne en particulier pour le ministère prophétique. Le ministère prophétique est le ministère qui consiste à apporter la parole de Dieu ici et maintenant. Il est un ministère de femmes aussi bien que d'hommes, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et ce ministère correspond en grande partie à la prédication. Mais le ministère pastoral, c'est pas seulement le ministère de la prédication, c'est un ministère de conduite du troupeau. Notre Église, vous le savez, l'Église du Tabernacle, a été pionnière en cette matière. Notre Église est la première en France à avoir eu un pasteur de sexe féminin. Madame Madeleine Blucher-Nessayens a été la première femme pasteur de France. Notre Église a été ainsi conduite. J'estime pour ma part que le Seigneur a conduit les choses, que c'est un ministère extraordinaire qui peut se comparer à celui de Priscille dans le Nouveau Testament. Peut-être quelques autres femmes ont eu des ministères de cette même catégorie extraordinaire dans le Nouveau Testament. Tous ne sont pas persuadés de la même conclusion. Et je voudrais souligner que rien n'est imposé à la conscience des membres de l'Église du Tabernacle. J'adhère pour ma part à ce que je viens de dire, mais il ne faudrait pas que certains se sentent en quelque sorte comme matraqués pour que cela leur soit imposé. Et nous voulons tous demeurer dans le respect fraternel, dans la courtoisie à l'égard de ceux qui ne pensent pas de cette façon au sein de notre association baptiste. Nous revendiquons notre place dans cette association des églises baptistes, mais nous savons qu'il y en a qui sont plus réticents que nous sur le sujet que je viens d'aborder. Je crois que si nous nous laissions fascinés par cette question, ou même obsédés par elle, nous oublierions le sens premier de la grande proclamation de l'apôtre « Vous êtes tous un dans le Christ Jésus, héritiers de la promesse de la justice pleine et entière, plus d'accusation, plus de condamnation qui nous est donnée parce que Jésus-Christ a tout payé, héritiers de la promesse du règne, de la bénédiction qui s'étend à tous, que le Seigneur nous donne d'être bien dans l'axe de cette abolition chrétienne des privilèges. »